Basile, votre application de recherche immobilière, présente.
Sud Radio, parlons immo. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency.
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour la France, on est ravis de vous retrouver. Voilà, comme chaque week-end. Alors, pas forcément tous les week-ends, puisque la semaine dernière, il ne vous a pas échappé que je n'étais pas là. J'étais
si,
en Normandie. Mais notre super Bérénice m'a dignement remplacé. Vous êtes bienvenue dans Parlons Immo, justement, avec l'ami Bérénice de Villefloriot. Comment elle va aujourd'hui?
Bonjour Sylvain, je suis ravie de vous retrouver. Et on avait décrété un jour de deuil national, comme vous n'étiez pas là la semaine dernière. Faut quand même le dire. Vous nous avez terriblement manqué, Sylvain, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui.
Bérénice, n'en rajoutez pas. Voilà. Merci en tout cas, voilà, vous êtes sur Parlons Immo avec l'ami Grégoire Daricot, toujours à la manœuvre.
Bonjour Sylvain, bonjour à tous.
Comment il va Grégoire?
Très bien.
Alors, les Français, les amis, vous le savez, cherchent-ils aujourd'hui leur logement? C'est la dent creuse, on en parle tout le temps. D'ailleurs, on va en parler également dans la grande question de la semaine sur la natalité. Eh bien, écoutez, on s'était dit qu'il fallait qu'on en parle avec celui qui préside aujourd'hui au moteur de recherche, au portail d'annonces immobilières le plus important de France. Il est directeur général de Sologer. Bonjour Baptiste Capron.
Bonjour Sylvain.
Merci d'être avec nous. On va parler justement des recherches immobilières. On écoutera également nos auditeurs, après avoir récolté, comme d'habitude, leur message par question SMS en envoyant IMO, I2MO, au 72018. Avec vous, Bérénice Bellu-Florion, on va parler de quoi cette semaine?
On va parler des choses que l'on ne peut pas faire sans l'accord de la copropriété. On a eu une question à ce sujet d'un auditeur. D'ailleurs, envoyez-nous vos questions au 72018 avec IMO devant. IMO, puis votre question.
Et on parlera viager également.
On va parler viager, on va voir comment, après une vie de travail, améliorer sa retraite sans quitter son logement.
Ah, puis bon programme en tout cas, on est tout à fait dans le contemporain. Et avec l'ami Grégoire, on va parler également de rénovation énergétique.
Oui mon cher Sylvain, la météo est catastrophique, mais moi je sais que nous sommes au printemps, donc je vous fais des chroniques printanières aujourd'hui. Avec Laurent Permas, on va voir si le printemps est une bonne période pour entamer ses travaux de rénovation. Et puis dans notre chronique Maison Saine, je vous parlerai du pollen lorsque l'on aère son logement. J'ai pensé à vous Sylvain et vos quintes de toux.
Merci. Vous prenez soin de moi, je trouve ça génial. Allez, tout de suite, les infos à retenir avec vous, Bérénice. Alors, le programme de la semaine est quand même plutôt chargé, n'est-ce pas?
Et oui, alors je vous parle de la fin programmée de millions de PEL, plan épargne logement. Je vous parle aussi d'une proposition de loi inédite qui veut relancer la natalité par le logement. Et enfin, je vous parle d'un symbole, la boisserie, la maison du général de Gaulle, qui pourrait bientôt changer de main.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne pouvaient pas connaître, bien évidemment. On va commencer justement avec cette info des auditeurs, la fin programmée du plan épargne logement.
Eh oui, alors de certains plans épargne logement. C'est un vrai tournant pour l'épargne des Français. Depuis le mois de mars, les premiers PEL ouverts après la réforme du 1er mars 2011 arrivent à leur limite de 15 ans et les banques commencent à les clôturer automatiquement. Alors pour bien comprendre, si votre PEL a été ouvert avant mars 2011, vous n'êtes pas concerné. En revanche, si vous l'avez ouvert entre le 1er mars 2011 et 2015, c'est pour vous. Et il y en aura beaucoup, puisque la Banque de France estime qu'il y en a 3,2 millions de PL qui vont être fermés d'ici 2030. C'est 36% des plans actifs pour un encours total de 93 milliards d'euros. Alors, à la clôture, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, votre banque va transférer automatiquement le capital sur un livret bancaire classique. Et là, attention, le taux moyen de ces livrets, c'est 0,8%. Alors qu'un PEL de la génération 2011, on est autour de 2,5%. Pour vous donner un exemple très concret, la Banque de France nous dit qu'en moyenne, on a 25 000 euros sur notre PEL. Eh bien, à 2,5%, ça rapporte 625 euros par an. Une fois transféré sur un livret à 0,8%, on tombe à 200 euros par an. Ouais, ça fait mal. Hein.
Oui.
Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Il ne faut pas subir. Téléphoner à votre banquier. N'hésitez pas à vous rapprocher de certains CGP. Allez voir des professionnels dont c'est le métier, hein, pas sur les réseaux sociaux. Mais regardez, voilà, plusieurs solutions sont possibles en fonction de vos objectifs, de votre profil. Il y a évidemment l'assurance vie qui peut être très attractive. Il y a le plan épargne retraite si vous payez trop d'impôts. Il y a les SCPI pour investir dans l'immobilier sans contrainte. Il y a aussi le livret A et le LDD. Donc, la fin de ces PEL, c'est pas qu'un sujet technique, hein, c'est vraiment un sujet de rendement et de pouvoir d'achat. Quelques centaines d'euros sont à la clé par an.
Eh bien écoutez, on va parler maintenant d'un sujet très important, Bérénice. La natalité, elle est en berne et il y a d'ailleurs même une proposition de loi qui a été déposée pour essayer d'y remédier.
Eh oui, alors Sylvain, si on veut que les Français aient à nouveau des enfants, qu'est-ce qu'il faut faire?
Faire des enfants.
Voilà. Il faut leur permettre d'avoir un logement adapté. Oui, mais, je vous ai vu, oui, petit coquin. Oui. Et non, je ne parlais pas de ça. Voilà, je parlais du logement. Parce que c'est vrai que les travaux menés par certains parlementaires montrent que la propriété favorise la natalité. La stabilité résidentielle est une condition clé pour fonder une famille et c'est normal. Une proposition de loi sera examinée jeudi 28 mai en commission des finances, puis en séance publique à l'Assemblée. Elle est portée par Constance de Pellichy, députée du Loiret et présidente de la mission d'information sur la baisse de la natalité en France. Et le constat de départ, c'est quoi? Il est très fort, c'est qu'aujourd'hui, près de 3 couples sur 4 déclarent que les difficultés de logement constituent un obstacle à l'arrivée d'un enfant. Et autre chiffre, la superficie moyenne des logements des ménages a diminué de 30% en 40 ans. On vit dans des espaces de plus en plus petits et forcément ça pèse sur les projets familiaux. Alors la proposition concrète c'est quoi? C'est la création d'un prêt à taux zéro de 100 000 euros pour les familles. Ce taux serait accessible dès la déclaration de grossesse et jusqu'aux 5 ans de l'enfant sans condition de ressources.
Sans condition de ressources, c'est très important.
Cumulable avec les aides existantes, donc par exemple un PTZ classique ou ma prime rénov. Donc c'est la première fois qu'une proposition de loi traite frontalement de ce sujet entre politique du logement et politique familiale. Donc rendez-vous le 28 mai pour suivre l'examen du texte en commission des finances.
Et d'ailleurs, on en reparlera à la fin de l'émission. Une personnalité connue de la politique disait une chose, l'important ce n'est pas de sortir de Polytechnique, mais de sortir de l'ordinaire. Vous l'avez reconnu, c'est le général de Gaulle, justement un sujet patrimonial au grand sens du terme.
L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat.
Eh oui, vous l'avez reconnu, le général
de
Gaulle.
C'est
l'appel du 18 juin 1940, quand le général de Gaulle s'est rendu à Londres, et il avait d'ailleurs été condamné à mort par contumace pour abandon de poste, il faut quand même le savoir. Ils étaient seulement 800 à avoir rejoint Londres en juin 40. Il faut dire qu'en 1942, quand les choses ont commencé un petit peu à dévier, ils se sont retrouvés à 2 millions. Voilà. Donc finalement, voilà.
Et
une information justement importante sur la natalité au sens noble du terme.
Oui, en tout cas, et ça fait du bien d'entendre le général de Gaulle. Bon, une information donc immobilière et symbolique, la boisserie à Colombelles et Deux-Églises en Haute-Marne, la demeure historique du général de Gaulle pourrait changer de main. Alors Charles de Gaulle avait acquis cette maison en 34, c'est là qu'il s'est retiré pendant sa traversée du désert et qu'il a rédigé ses mémoires. Et c'est là qu'il est mort en 70. Aujourd'hui, la propriété relève toujours de la sphère familiale, hein, après la disparition de l'amiral Philippe de Gaulle en 2024. Et une vente serait envisagée par les héritiers. L'État fait partie des acquéreurs possibles et d'ailleurs on espère que ce sera l'État parce qu'il ne faut pas que ça tombe non plus dans les mains de n'importe qui, mais rien n'est acté à ce stade. En tout cas derrière ce dossier, il y a aussi une vraie leçon de patrimoine, hein. Même dans une famille aussi symbolique que celle du général, eh bien, la transmission immobilière peut devenir un sujet complexe, hein. Désaccords familiaux, valeurs symboliques versus valeurs marchandes, fiscalité de la succession, ces sujets très concrets que rencontrent beaucoup de familles françaises. La différence c'est qu'ici, eh bien, c'est un morceau de notre histoire à tous, notre histoire nationale qui se joue. J'espère qu'un musée va être fait.
Alors moi j'espère que c'est un musée, et d'ailleurs on va lancer un appel, il faudrait que ce soit un musée, absolument musée, et surtout pas une résidence de luxe et surtout pas une résidence secondaire. Voilà, à suivre. Merci Bérénice et tout de suite on va attaquer le chantier du siècle.
Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente
Sud Radio, parlons éco-rénovation.
Et bonjour à tous, c'est l'heure de notre chronique Parlons Éco-Transition. Le printemps est là, hein, vous l'avez senti, c'est peut-être le meilleur moment pour penser à vos travaux de rénovation énergétique. Avec nous, Laurent Permas, bonjour. Pourquoi cette saison est-elle si stratégique?
Oui, bonjour Grégoire, parce que tout simplement, au printemps, on sort de l'hiver, hein, on a déjà identifié d'ailleurs les problèmes de notre logement, les froids, l'humidité, le courant d'air et les factures élevées. Et puis surtout, on a encore plusieurs mois avant le prochain hiver pour agir intelligemment, justement.
Quel est, Laurent, le premier chantier à envisager?
Forcément, on le dit très souvent, c'est l'isolation. Puis le printemps est idéal, justement, pour isoler les combles. On traite les murs aussi, et puis améliorer l'étanchéité du logement. Et pourquoi maintenant? Parce que justement, les températures sont plus favorables aux travaux. Et puis les entreprises sont souvent un peu plus disponibles qu'à l'automne. Vous serez tout simplement prêts avant les premiers froids.
Laurent, on peut aussi profiter de cette période pour faire un point global sur notre logement ?
Exactement, oui, le printemps est parfait hein, pour faire un audit énergétique. On le rappelle aussi très souvent dans nos chroniques, vérifier la ventilation, repérer les défauts apparus notamment pendant l'hiver. Un exemple concret, hein, la condensation sur les fenêtres, les traces d'humidité sur les murs ou encore les chambres difficiles à chauffer, ça c'est des signaux d'un logement qui est mal équilibré, en tout cas mal isolé.
Et Laurent, on doit le changer, le chauffage aussi ?
Alors, c'est le bon moment, justement, pour anticiper, pour réfléchir. Hein. Il y a un plan, justement, d'électrification avec les fameuses pompes à chaleur pour remplacer, justement, une vieille chaudière au printemps. Bah, ça permet d'éviter les délais de l'automne, de ne pas tomber en panne en plein hiver, et puis de prendre le temps de comparer les devis. Voilà, beaucoup de ménages, en fait, attendent septembre ou octobre, c'est le grand rush, et se retrouvent dans l'urgence, et les professionnels ne sont pas forcément tous disponibles.
Laurent, vous avez parlé d'isolation. C'est vrai qu'on parle moins de ventilation.
Oui, pourtant c'est essentiel, hein, c'est la circulation de l'air, un logement bien isolé, mais mal ventilé justement, bah, c'est source d'humidité, de moisissure, d'air intérieur dégradé, et puis c'est pas forcément bon pour la santé. Et là encore, le printemps hein, est un bon moment pour vérifier sa VMC, les bouches d'aération, envisager une ventilation plus performante, même si en ce moment les températures ont du mal justement à remonter. Hein.
Oui, tout à fait. Mais Laurent, pourquoi est-ce que le printemps est intéressant financièrement ?
Il est intéressant parce que vous avez plus de temps. Il faut du temps pour filmer tout de suite un devis pour justement monter les dossiers d'aide, hein, ma prime rénov', les certificats d'économie d'énergie et les primes locales. Ensuite, ces entreprises sont moins saturées qu'avant l'hiver, hein, c'est ce que je précisais. Puis surtout, on évite les travaux dans l'urgence qui coûtent souvent plus cher.
Donc finalement, le printemps sert à préparer l'hiver suivant.
Oui, il sert à préparer surtout la rénovation globale de votre logement. Pas à pas, justement, une rénovation énergétique, c'est pas une réaction à froid, c'est de l'anticipation. Puis les ménages qui s'y prennent au printemps, on choisit mieux, on compare davantage et puis on planifie.
Le message est simple, en fait, si je vous écoute, ne pas attendre les premières vagues de froid.
Oui, exactement. En fait, le meilleur moment pour ces chauffages, c'est maintenant. Hein, c'est au printemps, ou en tout cas lorsqu'il fait beau, c'est la saison idéale pour diagnostiquer, faire un audit énergétique, planifier, prendre du temps, et puis pas forcément faire tous les travaux. En même temps, on peut commencer par ceux qui vont avoir le plus d'impact pour votre facture et puis pour votre bien, pour bien ressentir à domicile.
Merci beaucoup Laurent Permas, et à vous toutes et tous qui nous écoutez. Si votre logement vous a posé problème cet hiver, c'est maintenant qu'il faut agir, et pas au mois de novembre. À la semaine prochaine sur Sud Radio.
Sud Radio, parlons éco-rénovation.
Avec Sofinco, lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie.
On va revenir les amis dans quelques instants après une petite pause et on répondra d'ailleurs aux questions des auditeurs. Avec vous Bérénice de Villefleurion, on recevra également notre grand invité. Comment bien trouver son logement ? C'est avec Baptiste Capron, le directeur général de Sologer. À tout de suite.
Basile, votre application de recherche immobilière présente...
Sud Radio, parlons immo. Midi 13h, Sylvain Lévy-Valency.
Eh bien, bonjour les amis, bonjour la France, on est ravis d'être avec vous pour votre émission hebdomadaire, l'émission du week-end, celui samedi entre 12h et 13h sur Sud Radio, un peu partout en France. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. On va parler justement de votre logement et on répond également à vos questions. Et cette semaine, Bérénice, on nous a posé une question précise que l'on va poser à notre expert.
Avec la Massif, économisez en changeant d'assurance de prêt immobilier. Conditions sur massif.fr. La Massif présente...
Sud Radio, parlons immo, ça vous concerne.
Bérénice de Villefleurion.
Et oui, alors je rappelle que vous pouvez nous écrire, envoyez-nous toutes vos questions, si ça concerne votre logement, vos voisins, vous avez des questions, c'est au 72018 que vous l'envoyez. Et juste avant votre question, au 72018, vous mettez immo. I2MO, comme ça on sait que c'est pour nous. Alors là, on a une question d'un auditeur qui n'a pas donné son prénom, c'est dommage, mais la question est très intéressante. En copropriété, je souhaite changer deux portes-fenêtres à vantaux par deux coulissantes. Quelles sont les démarches ? Alors pour y répondre, j'ai demandé à un expert de la copropriété, Olivier Safar, le président de Safar Immobilier. Bonjour Olivier, merci d'être
bonjour
avec nous.
Bonjour Bérénice, bonjour Sylvain.
Alors... Déjà, qu'est-ce que c'est que des fenêtres à vantaux ?
Ah bah, des fenêtres à vantaux, c'est des fenêtres qui s'ouvrent tout simplement en ouvrant au milieu et vous tirez à droite et à gauche les deux vantaux.
D'accord.
Voilà. Et ce qu'il veut faire, c'est au lieu d'avoir une fenêtre qui s'ouvre par le milieu, c'est de mettre des fenêtres coulissantes, c'est-à-dire qui se rabattent les unes sur les autres.
Et est-ce qu'on a le droit à une copropriété ?
Alors, est-ce qu'on a le droit en copropriété sans demander l'autorisation de l'Assemblée ? Non. Est-ce qu'on peut le faire ? Bien évidemment. Si c'était les mêmes fenêtres que vous changiez parce que vos fenêtres étaient en mauvais état et que vous remettez les mêmes et que vous les changez tout simplement, vous n'aviez pas besoin de demander l'autorisation. En revanche, si vous voulez modifier le style de fenêtre, il faut interroger d'abord le syndic pour savoir, un, si c'est possible dans le règlement de copropriété, et deux, si c'est le cas, de présenter le projet à l'Assemblée Générale pour qu'il soit validé par l'Assemblée Générale pour changer le modèle de fenêtre. N'oubliez pas une chose, l'esthétique est très importante dans ces points-là. Pourquoi ? Parce que vous voulez changer une fenêtre qui a un montant d'épaisseur qui fait 3 ou 4 cm par un épaisseur qui va faire 8 ou 10 cm, vous n'allez plus avoir la même esthétique sur la façade, et ça c'est un problème la plupart du temps dans les immeubles.
Oui, on est d'accord, c'est en fait le règlement de copropriété, il impose une harmonie en fait de façade, c'est de matériaux, de coloris, voire un type de menuiserie j'imagine.
Alors, la plupart du temps, oui, pour ceux qui ont été bien faits dans lequel c'est indiqué, ils vont vous dire que vous n'avez pas le droit aux vitrages, aux fenêtres, on va dire, de simples vitrages, vous devez les remplacer par du double vitrage aujourd'hui à rupture de pont thermique, que dernièrement, vous n'avez pas le droit de mettre des menuiseries qui sont noires alors que toutes les autres sont blanches, et ainsi de suite. Et ça peut même vous dire, vous n'avez pas le droit de mettre du bois, vous devez mettre que de l'alu, et supprimer tout ce qui est en ferraille, par exemple.
Ouais. Après, ça se comprend. C'est un souci d'esthétisme, mais ça peut jouer aussi sur la valeur du bien. Si on a une belle façade.
Alors, c'est beaucoup mieux d'avoir une très belle façade. Et puis, le jour où vous faites des travaux de ravalement et que vous devez déposer la demande d'autorisation en mairie, si certaines fenêtres n'ont pas été faites dans l'esthétique de toutes les autres, la mairie peut vous demander effectivement la modification de la fenêtre qui n'est pas ni à la bonne couleur ou pas à la bonne taille au niveau effectivement des montants, et demander à ce que ce soit modifié en même temps.
D'accord. Donc là, concrètement, pour notre auditeur qui n'a pas laissé son prénom, quelle démarche ? Donc là, il doit demander au syndic d'inscrire... Voilà. À la question de l'ordre du jour, de la prochaine AG.
Si, voilà, normalement, comme c'est un changement par rapport à ce qu'il y avait auparavant, il doit préparer un projet d'inscription à l'ordre du jour, du changement de type de fenêtre, en indiquant bien évidemment un croquis pour la fenêtre ancienne et la fenêtre nouvelle, et surtout en respectant les codes couleurs et les tailles des différents montants pour vous prouver qu'effectivement, c'est pratiquement à la même taille ou à un centimètre près, mais que ça ne fait pas 5 cm d'écart.
D'accord, eh bien merci beaucoup Olivier, c'est très clair. N'hésitez pas à nous écrire, tiens, monsieur ou madame qui nous avait envoyé ce SMS, et dites-nous comment vous vous appelez aussi, on sera ravis de le savoir. Merci Olivier Safar, président de Safar Immobilier, pour les questions de copropriété, c'était très clair.
Sud Radio, parlons immo, ça vous concerne.
Avec la Massif, changez votre assurance de prêt immobilier et économisez. Conditions sur massif.fr.
Nous sommes de retour sur le plateau de Sud Radio. On est ravis d'être avec vous dans votre émission hebdomadaire Parlons Immo. On va recevoir justement, lors de recevoir, notre invité extrêmement intéressant, puisqu'on va parler de la recherche immobilière. Bonjour Baptiste Capron.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Baptiste, vous êtes le patron de Se Loger. J'ai envie de vous poser une question. Est-ce qu'aujourd'hui, les Français, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment quand ils cherchent un logement ? On voit que les usages ont explosé, on voit qu'on vit un phénomène de décohabitation, d'explosion de la cellule familiale. À périmètre constant, la démographie reste la même, mais la demande de logement, elle a littéralement explosé.
Je pense que les Français, déjà, ils veulent de la clarté, parce que le marché bouge beaucoup. Et la bonne nouvelle, c'est que le marché, il est plutôt au rendez-vous. L'année dernière, ça a été, quand on prend un pas de recul sur le siècle, une année qui est dans le top 5. Près d'un million de transactions. Donc ça, c'est excellent.
Et malgré la crise.
Ouais, malgré la crise. Et malgré les volumes de crédit produits en mars, ils sont encore en augmentation. Donc structurellement, on est plutôt sur de bonnes années et c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Français parce qu'avant, ils veulent savoir dans quoi ils s'engagent.
Pour l'ancien.
Alors pour l'ancien et pour le neuf, il y a des nouveaux dispositifs qui sont là pour prendre le relais du Pinel. C'est un peu tôt pour les évaluer, mais il y a plutôt des bonnes nouvelles. Ensuite, ce qu'on voit sur notre application, qui est dans la poche de plus de 10 millions de Français, c'est ce qu'ils recherchent. Et ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est un marché quand même complexe, l'immobilier. Donc nous, on doit apporter de la simplicité. Donc c'est des maths, c'est des régulations, c'est des lois. Donc ils veulent à la fois une recherche qui est simple. Donc comment je cherche, comment j'ai des filtres, comment j'ai une carte qui m'apporte ça. On a beaucoup aussi de nouveaux usages, comme la recherche par temps de trajet. Hein, on veut savoir
combien
où est-ce qu'on est par rapport à l'école.
Français, combien de Français se connectent chaque jour? Vous avez combien de visites par mois sur votre site?
Alors nous, on mesure surtout les choses par rapport à l'application, parce que vous savez, les visites, quelqu'un revient 5 fois dans la journée, donc tout le monde fait ce qu'il veut avec les chiffres.
Bien sûr.
Nous, ce que moi je regarde, c'est les utilisateurs, donc les Français qui cherchent. On est dans la poche de plus de 10 millions de Français, et l'application a été téléchargée 4 millions de fois l'année dernière. Ça vous donne aussi une mesure de ce que je disais avant, qui est la reprise.
Alors justement, est-ce que aujourd'hui, on voit bien que la notion de prix est importante.
Ouais.
Aujourd'hui, on voit bien, Bérénice l'a rappelé tout à l'heure, on a des surfaces qui se restreignent avec le temps, parce que l'accès à la propriété se fait de plus en plus tard. Hein, elle a pris plusieurs années, d'ailleurs, par rapport aux gens de ma génération, ne serait-ce que pour ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous diriez qu'on recherche plutôt un cadre de vie lorsqu'on fait une recherche, indépendamment des critères essentiels, prix, surface, énergie?
Les critères essentiels restent essentiels, parce que quand on regarde les usages, le marché, c'est 80% du besoin. Donc c'est, on en parlait à l'instant, c'est j'ai un enfant, ou j'ai un projet d'enfant. C'est parfois je divorce, c'est parfois j'ai un décès, etc. Donc on reste...
Ou il faut une résidence alternée, évidemment. Bah oui.
On le lit à la natalité. En général, on fait le lien avec l'emploi, hein, la mobilité professionnelle. On dit souvent la crise du logement, c'est une crise de l'emploi. Je suis ravi de voir aussi qu'on le lit à d'autres sujets démographiques hyper importants. Mais donc les Français, ils doivent bouger, en fait. Donc c'est une mobilité qui est souvent nécessaire. Donc le prix reste quand même le critère numéro un. On a à se loger un long historique de travail de la donnée, hein, qui fait notre confiance, en fait, le rapport qu'on a avec les Françaises et les Français. Et on voit qu'on a plus de 500 000 estimations par mois, mais surtout que chaque bien qui est estimé, il fait l'objet en général de plein d'estimations. Donc on voit le débat familial qui s'organise autour du prix, on voit que l'agent aussi va utiliser ce objet. Ça reste le facteur numéro un. Et d'ailleurs, on voit que le marché a repris, parce que les prix sont assez stables.
Pour vous, le marché a repris?
Oui.
D'accord. Alors justement, on va y aller. La technologie est en train de bouleverser les usages, mais ça, je ne vous l'apprends pas. C'est votre métier, justement, d'anticiper la techno. Aujourd'hui, c'est un peu la dent creuse. Moi, ça me fait un peu flipper, quand même, hein, quand on en parle. C'est l'intelligence artificielle, où on a l'impression qu'effectivement, on demande à ChatGPT ou n'importe quel moteur d'intelligence artificielle qui finalement nous remplace ou pense à notre place. Comment l'IA, justement, est en train d'impacter la recherche immobilière? Est-ce qu'un jour on finira par ne plus faire de requêtes écrites, hein, on va s'adresser à l'écran, on va lui parler, on va lui dire, mais écoute, Siri, finalement, trouve-moi un super appart. Non, mais franchement,
faut pas avoir peur, ça va bien se passer.
Rassurez les Français.
Il y en a qui font ça.
Rassurez les Français qui nous écoutent.
Je vais vous rassurer. Bien qu'il y ait cette conviction qui existe. Aujourd'hui, la part de marché, hein, de notre trafic qui vient des LLM, c'est 0,5%. Et c'est pas nécessairement en progression. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a deux théories. Il y a la théorie que vous venez de dire. Donc, en fait, je fais rien, c'est l'IA qui cherche à ma place, etc.
Bah oui, c'est ce qu'on a tendance à penser.
Et il y a une autre théorie qui est, en fait, l'IA va venir améliorer la recherche, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent être améliorées par l'IA, mais le Français garde le contrôle. Moi, je souscris largement à la deuxième pour une simple raison. Un Français déménage 4 ou 5 fois dans sa vie. Donc, comme je dis souvent à mes équipes, on utilise peut-être ChatGPT pour booker une nuit d'hôtel sur Booking ou un autre site, mais pas pour s'engager 20 ans dans une histoire d'amour, alors d'ailleurs parfois une histoire d'amour tout court, mais une histoire d'amour avec l'appartement ou la maison qu'on choisit. C'est trop émotionnel, c'est trop important. Et puis évidemment, il y a la dynamique patrimoniale. Donc je suis optimiste et humaniste, je pense pas que ça arrive. En revanche, il faut utiliser l'IA pour enrichir l'expérience sur notre application.
Alors justement, il y a aujourd'hui des acteurs comme ChatGPT, Carrefour, Accor qui se lancent avec des assistants IA. Il y a une concurrence qui s'organise, hein, autour, parce que vous étiez quand même le moteur de recherche, vous êtes le portail le plus connu auprès des Français. Ça vous fait pas peur, même pas peur, hein, tout ça?
Je pense qu'il faut toujours être humble, et l'histoire du groupe, c'est d'avoir utilisé la technologie. Vous savez, on est parti du Minitel. Donc quand Internet c'était de la presse même, Minitel, et puis Internet, et puis dans les années 2010, on nous a dit Google et Facebook vont vous remplacer, et puis etc.
En fait,
l'histoire du groupe, c'est comme n'importe quel groupe leader historique, de bâtir sur ça. On a une relation avec les Français de confiance. L'IA sans la donnée, c'est comme une voiture sans essence, ça va pas très loin. La donnée, C'est ce loger qui l'agrège, c'est ce loger qui la travaille et c'est ce loger qui agit comme tiers de confiance. Et la donnée, elle est hyper importante. Les Français, ils veulent bien chercher par recherche en langage naturel, mais ils veulent surtout la carte scolaire. C'est les Français, clair. Ils veulent le bon prix. Les Français, ils veulent savoir si c'est à moins de 30 minutes en voiture. Ouais. C'est ça et c'est comme ça qu'on cherche.
Eh bien écoutez, c'est beaucoup plus clair pour moi. Je me voici rassuré. Restez avec nous, Baptiste Capron, dans la deuxième partie de l'entretien. Justement, on parlera de la recherche immobilière. Une petite pause, on se retrouve tout de suite après.
Basile, votre application de recherche immobilière présente
Sud Radio Parlons Immo, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency.
Eh bien rebonjour la France, ravi d'être avec vous pour votre Parlons Immo hebdomadaire 12h-13h chaque samedi. On est toujours avec vous Baptiste Capron, merci d'être venu pour le week-end justement sur Sud Radio. Soyons honnêtes mon cher Baptiste, aujourd'hui chercher un logement c'est devenu épuisant pour beaucoup de Français, vous le savez ça?
Alors moi je pense que c'est un engagement, parce que chercher un logement c'est rare et que nous on doit simplifier cette recherche. Pour pas que ce soit épuisant, mais pour que ce soit enrichissant. Les Français, ils adorent l'immobilier. On est sur un pays d'immobilier. Il y a 88% de Français qui veulent devenir propriétaires. C'est des intentions qui sont en augmentation. Et quand on regarde sur notre site, ce qui est intéressant, c'est, vous savez, on a 10 millions d'utilisateurs qui nous utilisent sur l'application, mais on a aussi beaucoup de gens qui mettent des alertes. Vous savez, les alertes, c'est je mets une certaine configuration, je cherche tel type de bien et prévenez-moi par email, etc. Donc on envoie chaque année des milliards d'emails.
Et je reçois une notification.
Exactement. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que dans les 3 millions de visites physiques qu'on organise entre un agent immobilier et un particulier chaque mois, il y a la moitié qui viennent de ces alertes. C'est-à-dire qu'il y a la moitié qui viennent de projets longs. Donc il y a beaucoup de gens qui sont dans des recherches à temps long. Et donc moi je vois ça comme un projet qui est engageant et qui doit même, et c'est ce que j'espère avec nos produits, devient excitant.
Alors justement, entre les prix, les taux, on le voit, les taux sont relativement stables, mais ils ont quand même augmenté depuis janvier, entre 25 et 50 points de base justement. Les annonces qui disparaissent en quelques heures parce que les gens ne sont pas forcément réactifs, est-ce qu'aujourd'hui le fait de se loger par rapport au stress, à la recherche, vous voyez sur vos données, un accroissement finalement de la tension, est-ce qu'on est plutôt sur des tendances qui sont tout à fait normales et contemporaines?
Oui, alors je pense qu'il faut distinguer deux éléments. Il y a le marché de la transaction qui, lui, se comporte bien. Les délais de vente se raccourcissent même un peu. Donc on voit,
Les volumes de vente sont toujours aussi bons.
Les volumes de vente, l'année dernière, ils sont dans le top 5 du siècle et on a été un peu habitués par le crédit à taux zéro pendant quelques années. On est parti sur des montants de transactions
délirants. Et des taux très très bas.
Et les taux très bas. Mais aujourd'hui, un taux de 3,5%, ça reste acceptable. Je rappelle que lors du premier choc pétrolier, ils étaient de 14%.
Oui, mais les prix n'étaient pas les mêmes.
C'est vrai.
Oui. Et les salaires non plus.
Et l'inflation non plus, puisqu'on avait une inflation à 12. Je rappelle, pour ceux qui ont connu cette époque, vous n'étiez pas né, vous.
Non, j'étais encore dans le ciel.
Néanmoins, en France, on a de la chance parce que le crédit est un produit d'appel. J'étais à Londres ce week-end, je discutais avec un ami qui a négocié son prêt à taux variable à 5%. Donc, je veux dire.
Ah oui, on est bien logé en France. Voilà. C'est le cas de le dire.
On a de la chance, c'est crédit taux fixe.
Mais c'est important que vous le rappeliez parce que la France est le seul pays à le pratiquer. Alors justement, pour vous, se loger, au sens propre du terme et comme au sens figuré, quels sont aujourd'hui les biens qui sont les plus recherchés par les Français? Vous le savez ça, vous, Baptiste?
Oui, alors il y a deux types de biens, ça ne va pas vous étonner, je pense. D'abord, la maison.
Bah oui.
Alors la maison, c'est 55% de nos recherches. Et la maison de 5 pièces, c'est vraiment le prototype. Le deuxième bien, ouais, parce que c'est la famille qui s'est agrandie, on fait une pièce en plus, etc. On en parlait sur l'analyse, c'est la fameuse pièce en plus. Et la maison, ça reste le rêve des Français. C'était le cas avant le Covid, ça a été accéléré par le Covid. Il y a eu même un phénomène de correction après, parce que la maison avait beaucoup augmenté. Après, il y a un deuxième type de bien, il faut le rappeler, parce que parfois on a l'impression qu'on n'est plus un pays urbain. On est un pays urbain. Donc le T2, T3, en fonction de là où on est, en fonction du prix au mètre carré, donc du jeune couple, du primo-accédant, le fameux primo-accédant qui s'installe, est très recherché. C'est beaucoup de nos recherches également.
Ils sont revenus, les primo-accédants, parce qu'ils avaient un peu déserté.
Primo-accédants, c'est ceux qui achètent pour la première fois.
Exactement. Ils reviennent avec le marché. Donc c'est eux qui portent le marché souvent, parce que c'est eux qui achètent du coup à un ex-primo-accédant qui devient secondo-accédant, etc. Et c'est le primo-accédant en achetant qui libère la place au fameux locataire.
Bien sûr.
Le futur locataire qui ne peut pas se loger parce que les locataires partent plus, etc. Donc c'est un marché qui est une forme de rotation. Et on voit que les primo-accédants reviennent. Donc c'est ça la bonne nouvelle.
Alors justement, on entend souvent, c'est un peu la litanie, et c'est vrai qu'on peut le comprendre, les gens veulent quitter les grandes agglomérations, les temps de transport infinis, cet exode parfois urbain dont on parle. Est-ce que c'est toujours vrai avec cette mythologie, vous savez, du jardin, de la grande maison, ouais, qui vaut le prix d'un studio à Paris et qu'on trouverait à 1 heure, 2 heures de Paris? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est ce qui compte justement le plus pour les Français? Comment vous le percevez, cet usage-là?
Moi, je dirais que la ville s'étale. En fait, hein, les gens, ils cherchent plutôt à être près de leur travail. Et le travail, il reste. Le télétravail, c'est pas partout. Hein,
bien sûr.
On en revient.
Fort heureusement. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui recherchent par temps de trajet. Ils veulent être moins d'une demi-heure, etc. Bon. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de quartiers, pas qu'à Paris. Alors, Paris, l'exemple classique, c'est Montreuil, hein, qui est une des villes qui a plus le prix en termes de prix depuis le début du siècle, parce que c'est bien desservi. C'est sur la 9, c'était pas cher.
Oui, ouais.
Mais Pessac à Bordeaux, je pourrais vous raconter la même histoire, etc.
Pareil, donc, absolument.
Il y a beaucoup, beaucoup d'endroits qui sont simplement le fait que la ville s'accroît, mais on reste sur des populations qui sont urbaines, et la maison, dans ces endroits-là, peut devenir une option.
Alors, on a bien les bons plans, hein, les très très bons plans. Est-ce qu'il y a encore, Baptiste, voilà, comme ça, vous nous le dites, comme ça, est-ce qu'il y a encore des villes où l'on peut encore bien vivre sans exploser son budget logement?
Alors, donc, je vais vous dire, je vous fais une réponse de Normand, n'étant pas Normand mais Breton. Tout dépend de vos goûts et de vos besoins. Quand on regarde le marché, donc on a une étude qui va sortir lundi prochain. Ce qui est intéressant, c'est que bon, on est caractérisé par des grands écarts. Hein. Donc vous avez quand même en moyenne 250 000 euros de budget, c'est la valeur d'une transaction avec les frais de notaire en France. Ça vous emmène sur un 23 mètres carrés à Paris et ça vous emmène sur un 180 mètres carrés à Mulhouse ou à Saint-Étienne. Donc ça, c'est l'écart sur les grandes villes.
Non,
je vous fais les rues si vous voulez.
Donc
à peu près 560 euros dans un village en Haute-Marne qui n'est pas Colombé, les deux églises de la Boisserie, je le précise.
Néanmoins, c'est la maison du général de Gaulle.
Exactement. Et 23 000 euros avenue Montaigne. Bon, donc voilà, vous avez un rapport.
23 000 euros avenue Montaigne, mètre carré. Ah ouais.
Voilà.
Je peux même pas m'acheter un mètre carré.
Voilà. Donc c'est un marché qui est très disparate. Moi, mon conseil, c'est d'abord, donc on a mis des simulateurs en place. Hein. D'abord, il faut savoir si on veut acheter ou on veut louer. Compte tenu des taux, c'est une bonne question à se poser. Si on veut rester qu'à 5-10 ans dans son logement, si on a d'autres projets, parfois c'est mieux de louer. Donc vous pouvez faire la simulation sur nos sites. Il faut savoir si on veut faire des travaux. On parle de rénovation énergétique, mais en fait le DPE, ça peut être une super affaire comme un four. Donc il faut vraiment regarder précisément ce qu'on veut faire. Et puis pour finir,
faut vouloir faire des travaux.
Exactement, faut vouloir faire des travaux.
C'est bien de se projeter aussi.
Et pour finir, là on lance un simulateur de pouvoir d'achat. Donc il faut savoir faire des compromis entre l'espace qu'on veut avoir et le quartier qu'on veut occuper.
Alors justement, on le voit, vous l'avez dit d'ailleurs, les volumes de transactions sont stables, plutôt bons, il faut le dire, plutôt bons, avec un marché qui repart, même si c'est un verre pâle, ça repart. Par contre, la location, c'est ce qu'on appelle un marché grippé, mais alors totalement grippé. Oui. Je regardais justement sur les différents portails d'annonces, dont le vôtre, etc., on a une réduction du volume d'annonces qui est phénoménale. On peut atteindre dans des régions moins 40, moins 50%. À Paris, ça devient quasiment impossible de se loger en location.
Alors, il y a une forte tension locative sur Paris.
Dès que vous postez une annonce, elle disparaît en...
Oui, il y a 3 annonces sur 5 qui partent en moins de 1 jour. Donc, et quiconque a fait une visite de location à Paris sait à quel point on connaît le phénomène de la queue dans l'escalier.
C'est clair.
Donc je pense qu'il y a un problème qui est lié d'ailleurs au marché qui s'était un peu grippé avec la montée des taux en 2022-2023, c'est que les primo-accédants ne sont pas partis. Donc en fait, on n'a pas eu le phénomène de rotation qui fait que du coup, on a une offre qui est largement inférieure par rapport à la demande.
Et la perte du pouvoir d'achat, ça s'explique aussi. Je veux dire, les Français ont moins de moyens, ils sont plus stressés, ils restent dans leur logement, ils ne quittent pas leur location, même s'ils avaient un projet.
Exactement.
Un projet bien.
Néanmoins, ce qu'on peut dire, c'est qu'avec la reprise du marché, il y a plutôt des bons signaux. D'abord, un, les primo-accédants sont de retour. Deux, le gouvernement a assoupli la législation, notamment sur le DPE. Maintenant, on calcule le DPE d'une autre manière, en incluant notamment d'où vient l'énergie, si l'électrique est issue de notre nucléaire français.
Et donc, il y a le dispositif Jean Brun qui permet de relancer l'investissement.
Il y a beaucoup de biens qui sont venus sur le marché. Il y a 800 000 biens qui sont venus sur le marché. Le ministre a annoncé peut-être que d'autres pourraient F et G relouer. Et donc ça contribue à assouplir. Du coup, en fait, on regarde l'offre locative nationale, pas Paris, Paris ça baisse, mais national ça augmente, de l'ordre de 15%.
Merci beaucoup Baptiste Capon, je rappelle vous êtes directeur général de Se Loger, la bonne adresse justement quand on cherche un logement. Vous restez avec nous Baptiste, voilà, on va vous poser une question justement, on va parler de natalité à la fin de l'émission, mais tout de suite on va parler de notre chronique Maison Saine.
Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé. Murprotec vous présente
Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine.
Avec vous, Grégoire Darico et l'excellent Édouard David.
Et oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Maison Saine, votre rendez-vous sur Sud Radio pour mieux comprendre comment notre logement influence notre santé et notre bien-être. Alors, le printemps est là, on y revient. Les beaux jours aussi, on espère. Mais pour beaucoup, c'est également le retour des allergies. Nez qui coule, les yeux qui piquent, les éternuements, les quintes de toux, n'est-ce pas mon cher Sylvain? Et une question qui revient souvent, faut-il continuer à aérer son logement quand il y a beaucoup de pollen dehors? Parce qu'est-ce qu'on fait pas entrer l'ennemi chez soi, finalement? Et pour en parler, je fais appel à Édouard David, responsable de l'engagement sociétal chez Murprotec. Bonjour Édouard.
Bonjour Grégoire. Oui, c'est une vraie question parce qu'on se trouve face à deux besoins contradictoires. Renouveler l'air intérieur sans transformer son salon en prairie.
Alors justement, Édouard, faut-il aérer quand il y a du pollen?
C'est bon ça.
Oui Grégoire, oui, il faut aérer mais intelligemment. Parce que ne plus aérer du tout, ça serait une erreur. Un logement fermé accumule humidité, CO2, polluants intérieurs, acariens, composés chimiques. Et un air intérieur mal renouvelé peut lui aussi aggraver l'inconfort respiratoire.
Le problème, en fait, c'est pas aéré, c'est quand et comment.
Exactement. Les pollens sont plus présents en milieu de journée, quand il fait chaud et lorsqu'il y a du vent. Le mieux est donc d'aérer tôt le matin ou plus tard le soir, quand la concentration de pollen est généralement plus faible.
Édouard, est-ce que le pollen peut vraiment s'installer durablement dans nos logements?
Oui, car les pollens ne restent pas seulement dans l'air. Ils se déposent sur les rideaux, les canapés, les draps, les vêtements ou même les cheveux. C'est pour cela que certaines personnes allergiques ont parfois l'impression que ça continue même à l'intérieur.
En fait, notre logement, il peut devenir une sorte de piège à pollen.
Oui, surtout si on aère longtemps au mauvais moment, les fenêtres donnent sur un jardin ou des arbres, ou si le logement manque d'entretien. Et il y a un autre phénomène important, le pollen se combine parfois avec l'humidité ou la pollution intérieure, ce qui peut accentuer l'irritation des voies respiratoires.
Alors là, Sylvain se demande quels sont les bons réflexes pour limiter cet inconfort, mon cher Édouard.
Oui, Édouard. Oui,
Quelques gestes simples, Sylvain, quelques gestes simples. Aérer brièvement mais efficacement 5 à 10 minutes. Privilégier les horaires où le pollen est plus faible. Éviter de secouer le linge dehors pendant des pics de pollenique. Et passer régulièrement l'aspirateur avec des filtres adaptés. Et puis dernier point, Sylvain, surtout, maintenir un logement sain, sans humidité excessive, car un air humide et chargé aggrave souvent la sensation d'inconfort.
Au fond, le vrai sujet, c'est l'équilibre, Édouard.
Toujours Grégoire, un logement sain, ce n'est pas un logement totalement fermé, ni un logement qui est ouvert en permanence. C'est un logement où l'air circule intelligemment.
Et pour les personnes très allergiques, est-ce qu'il faut adapter davantage ses habitudes?
Oui, certaines personnes sensibles peuvent surveiller les alertes polémiques, nettoyer plus régulièrement les textiles ou utiliser des systèmes de filtration adaptés. Mais encore une fois, il ne faut pas sacrifier la qualité de l'air intérieur par peur du pollen extérieur.
Donc Édouard, le bon réflexe c'est...
Le bon réflexe, c'est que le printemps doit rentrer dans nos maisons, mais pas forcément tout le pollen avec. Le bon réflexe, c'est d'aérer au bon moment, avec mesure, et de garder un logement sain et bien ventilé.
Et merci beaucoup Édouard David pour ces précieux conseils. Et à vous qui nous écoutez, ouvrez les fenêtres, mais gardez un œil sur le pollen. En cas de doute, rendez-vous sur maison-saine.fr. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle chronique Maison Saine sur Sud Radio.
Sud Radio. Parlons Immo, Maison Saine.
Avec Murprotec, agissez contre l'humidité et prévenez les risques de l'habitat sur votre santé.
Une petite pause les amis, on se retrouve tout juste après pour la dernière partie de notre émission. Au programme, on va parler viager et on va évoquer également la grande question de la semaine. Faut-il faire des enfants dans notre pays? Tout de suite.
Basile, votre application de recherche immobilière, présente...
Sud Radio, Parlons Immo, midi 13h, Sylvain Lévy-Valency.
Salut les amis, si vous êtes à table, on vous souhaite un excellent appétit un peu partout en France. Prenez le soin de vous occuper de vous, de votre prochain, de votre lointain et de votre maison. On parle de votre logement. Bah justement, ça tombe bien, on va parler de notre rubrique tant et appréciée. Deux fois par mois, on parle de viager.
Parlons viager.
Avec l'Office du viager, bien conseillé, bien protégé.
Avec vous, Bérénice de Villefloriot.
Et en ce mois de mai, avec ces ponts, on a eu envie aujourd'hui de parler d'un sujet très concret, la retraite après une vie entière de travail. Parce qu'on le sait, beaucoup de seniors ont travaillé toute leur vie, c'est peut-être même votre cas, parfois très tôt, parfois dans des métiers physiques ou exigeants. Et pourtant, une fois à la retraite, eh bien, les finances ne suivent pas toujours. Alors comment améliorer son quotidien sans forcément quitter son logement? Eh bien, pour en parler, nous retrouvons Marine Livotti, directrice de l'Office du Viager. Bonjour Marine.
Bonjour Bérénice, bonjour à tous. Oui, c'est vrai que c'est une réalité que nous rencontrons tous les jours sur le terrain. On a beaucoup de seniors qui ont travaillé pendant 45, 45 ans et qui ont remboursé leur maison toute leur vie. Ils ont élevé leurs enfants, parfois aidé même leurs proches. Et aujourd'hui, ils se retrouvent, ben, malgré une carrière complète, certaines retraites sont malheureusement insuffisantes pour vivre sereinement.
Et souvent, le patrimoine principal reste justement la maison ou l'appartement.
Oui, c'est tout à fait ça. Beaucoup de seniors sont propriétaires avec finalement peu de liquidités disponibles. Ils ont un patrimoine immobilier qui est important, mais avec des revenus mensuels qui sont parfois trop faibles pour faire face à la fois à l'inflation, pour pouvoir entretenir leur logement, financer une aide à domicile ou tout simplement profiter un petit peu de leur retraite. Et c'est là que des solutions comme le viager ou la vente de nue propriété peut avoir du sens.
Et donc l'idée, c'est de pouvoir utiliser la valeur de son logement sans être obligé de partir.
Oui, exactement. C'est un point qui est très important. Contrairement à certaines idées reçues, le viager ne signifie pas forcément quitter son logement. Dans un viager occupé, par exemple, le senior va rester vivre chez lui jusqu'à la fin de sa vie. Et en échange, il va percevoir un capital immédiat qu'on appelle le bouquet, puis une rente mensuelle complémentaire. Et cela permet souvent de retrouver finalement le confort financier qui nous manquait, sans avoir pour autant besoin de changer les habitudes de vie.
Et alors, il existe plusieurs types de solutions, Marine.
Oui, alors c'est important de les distinguer. On vient d'en parler avec le viager occupé. C'est finalement la formule la plus connue. Le vendeur va rester chez lui et va percevoir un complément de retraite. On a également la vente à terme qui, elle, fonctionne un petit peu comme un paiement échelonné dans le temps avec des mensualités prévues à l'avance et une durée d'usage fixée. Et enfin, on a la nue propriété qui va permettre de récupérer un capital important immédiatement, sans rente mensuelle, et qui va permettre de conserver à la fois l'usage du logement ou la possibilité de le louer. Et chaque solution, elle va répondre à des besoins assez spécifiques et qui vont différer d'une personne à l'autre.
Et est-ce qu'aujourd'hui, les seniors abordent ces solutions différemment, j'entends par rapport à avant ?
Oui, clairement, on voit qu'avant, le viager, c'était souvent un petit peu une solution de dernier recours. On s'en servait vraiment si on n'avait pas d'autres opportunités. Aujourd'hui, on a par contre beaucoup plus de seniors qui le voient par anticipation comme un outil de gestion patrimoniale intelligente. L'objectif, c'est finalement pas tellement de tenir financièrement, mais c'est aussi, par exemple, de pouvoir s'ouvrir, voyager un petit peu, aider ses enfants ou ses petits-enfants parfois, pouvoir adapter son logement ou tout simplement vivre une retraite plus sereinement.
Et oui, finalement, après une vie entière de travail, l'idée est de pouvoir profiter un peu plus sereinement de sa retraite. Merci beaucoup Marine Livotti. Je rappelle que vous êtes directrice de l'Office du Viager.
C'était Parlons Viager.
Avec l'Office du Viager, bien conseillé, bien protégé.
Et bien de retour sur Sud Radio dans votre émission Parlons Immo, bonjour à tous. Si vous prenez, nous arrivons au terme de notre émission. On voulait évoquer pour cette semaine un sujet d'importance. Je vous donne un chiffre. En 2025, il y a eu 651 000 décès contre 645 000 naissances. C'est la première fois en France où il y a plus de décès que de natalité, Bérénice de Villefloriot.
Et oui, et les derniers chiffres, même c'est sur mars 2026, 52 000 bébés sont nés. C'est 2,5% de moins qu'en mars 2025. Vous voyez, ça continue à baisser par rapport à l'année dernière. Donc on est vraiment dans une tendance baissière pour les naissances. Et alors la question qu'on se pose, est-ce que le logement est devenu un frein concret au projet d'enfant?
Voilà. Est-ce qu'on aborde un déclin démographique qui fait que le logement devient essentiel dans la demande? Et d'ailleurs, c'est un des critères, Bérénice, me semble-t-il, qui fait reculer les Français, effectivement, dans le fait de faire des enfants.
Oui, oui, c'est la députée, hein, Constance de Pélichy, je le disais tout à l'heure, qui a proposé justement de mettre en place un prêt prêts à taux zéro pouvant aller jusqu'à 100 000 euros pour aider les familles à acquérir, construire ou agrandir leur résidence principale. C'est une proposition de loi qui va être étudiée justement le 28 mai prochain. Et ce prêt à taux zéro serait disponible, si ça passe, dès la déclaration de grossesse et jusqu'aux 5 ans de l'enfant, sans condition de ressources. On va peut-être demander à notre invité, Baptiste Capron, le directeur général de Se Loger. C'est vrai que vous qui pilotez un portail Se Loger, vous voyez peut-être les tendances émerger. Est-ce que vous ressentez que le logement, ça peut être un frein justement à la natalité?
Oui, je pense qu'on associe souvent le logement à l'emploi, mais je pense que la natalité, c'est hyper associé également. Ce qu'on regarde, c'est en fait le pouvoir d'achat moyen des Français, il est de l'ordre de 89 mètres carrés, en moyenne.
En moyenne, c'est
un 4 pièces. Mais évidemment, c'est la moyenne.
Ah oui,
c'est pas toute la distribution. Donc,
ce serait intéressant d'avoir la médiane.
Exactement. Donc la médiane est inférieure à la moyenne et probablement, c'est un peu reculé. Après, il y a trois, vous le rappeliez tout à l'heure, il y a toujours trois paramètres. Il y a le crédit, il y a le prix et il y a le revenu. Donc évidemment, on souhaite que les crédits s'améliorent. Évidemment, le prix s'est plutôt stabilisé. Ce qui compte, c'est que le pouvoir d'achat qui est déterminé par le revenu suive aussi.
C'est toujours la même question d'ailleurs, vous avez raison de le souligner, pouvoir d'achat qui détermine le projet. Ouais. Avec Bérénice, on avait fait des émissions, vous rappelez-vous Bérénice, où on voyait des jeunes qui ne se mettaient pas en couple faute de logement, qui retardaient même leur mariage ou le fait de faire un enfant faute de logement. Question est posée sur le déclin démographique. Merci à tous pour cette émission, merci Baptiste Capron. Voilà, le bon conseil, c'est d'aller sur le portail de Se Loger bien évidemment et télécharger l'application. On se retrouve pour notre part le week-end prochain. Prenez soin de vous, passez de belles vacances si vous êtes en vacances et on se retrouve pour votre émission samedi prochain dès midi sur Sud Radio, bien évidemment avec Parlons Immo.
Sud Radio, Parlons Immo, Sylvain Lévy-Valency.
Avec Basile, votre application de recherche immobilière.